vie n'est pas transformée, elle n'est pas changée, et pourtant, quelle attente il y a eu, quelle ferveur. Le changement dans nos vies ne repose pas sur les choses de ce monde, aussi passionnantes soient-elles. La transformation de nos cœurs, de nos existences, l'espérance qui peut changer l'horizon de chacune de nos vies ne dépend pas de ce que ce monde peut offrir, aussi intéressant soit-il. Il n'y a qu'une seule chose qui peut transformer la vie, le cœur, l'existence d'un homme et d'une femme, bouleverser sa vie, bouleverser sa famille, sa cité, son pays, voire même le monde. C'est quand Dieu rencontre son fils ou sa fille. C'est quand le Christ rentre à l'intérieur d'une vie et par sa parole peut bouleverser, changer, guérir, amener ce qui était mort à la vie. Voilà ce qui peut changer. Alléluia. Alors sommes-nous prêts à vivre ces changements et ces transformations, chacun pour notre part, y compris quand nous sommes chrétiens? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, je suis champion du monde, par procuration, mais ce que je veux, c'est être vivant de ta vie, c'est laisser ton œuvre s'accomplir en moi, c'est que ta parole me rencontre. Ta parole me rencontre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 1, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain cent. Un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. C'est un long texte, mais il me semble important de le lire tout entier pour que ce matin, la parole de Dieu nous rencontre et puisse nous parler. Du verset 3 au verset 9, Jésus s'adresse à la foule sous la forme d'une parabole. Et il y a un étonnement des disciples. Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Et en quelque sorte, pourquoi tu ne leur donnes pas la clé pour comprendre la parabole? C'est un texte qui m'a choqué au début de ma conversion, il y a quelques décennies, parce que je ne comprenais pas pourquoi dans cet évangile, Christ affiche ouvertement qu'il ne donne pas la clé pour que les gens ne comprennent pas. Il disait, il me semblait, moi, j'avais 16 ans et demi, il me semblait que Christ était là pour que la parole qu'il apportait soit compréhensible et entendue de tous, et que cela les amène à la conversion. Il y a pourtant dans ce texte un éclairage différent. Et il y a dans le verset 13 cette pensée, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Cette référence à Ésaïe renvoie à l'appel du prophète au chapitre 6. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Envoie-moi pour parler en ton nom, pour dire les mystères de Dieu. Dans l'évangile de Marc, je crois qu'il y a un début de réponse à ce verset 13 de Matthieu. Je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, etc., etc. Et en fait, au chapitre 4, verset 10 à verset 12, ceux qui l'entouraient avec les 12, c'est ceux-là auxquels il s'adresse. Ce groupe qui forme ce cercle restreint auquel tout est expliqué, les vénards, les disciples, et ceux qui entouraient Jésus, c'est ceux auxquels les clés étaient données pour comprendre. Ce cercle restreint. Pour ceux du dehors, tout n'est que parabole. Sans compréhension, sans clé. Marc renvoie à la première partie de l'évangile où ce ne sont pas seulement les paroles, mais également les actes de Jésus qui sont paraboles. Ainsi, il y a deux groupes. Dans Marc, la frontière est déterminée par ceux qui sont autour de Jésus, dans sa présence, et ceux qui sont au dehors, à l'extérieur. Deux groupes. Seuls ceux qui sont dans la présence de Christ, qui sont autour de lui, reçoivent la clé pour comprendre les mystères de Dieu. En reprenant cette répartition de l'auditoire et en revenant chez Matthieu, nous ne pouvons ignorer le texte qui se trouve à l'ouverture des paraboles du royaume. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, juste avant que s'ouvre toute cette série de paraboles, il y a ce texte assez particulier de la mère de Jésus qui vient avec ses frères et sœurs et qui sont là, alors que Jésus est à l'intérieur d'une maison. Et que lui a-t-il dit ? Il y a ta mère, tes frères et tes sœurs qui sont dehors. Dehors ! Et la réponse de Jésus, c'est qui est ? Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? C'est-à-dire qui est dedans et qui est dehors ? même s'il s'agit de Marie, même s'il s'agit de ses frères, de ses sœurs, de sa famille, d'un Jacques qui deviendra un apôtre, même s'ils sont là, ils sont dehors. Et la parole de Christ, cette parole qui est vivante, est à destination de ceux qui sont autour de lui, qui sont dans sa présence. Et Matthieu, au même titre que Marc, ces deux évangiles synoptiques, introduisent les paraboles du royaume en commençant par la parabole du semeur, par cette visite familiale. Ils sont dehors. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ceux qui sont autour de moi? Qui sont ceux qui peuvent avoir compréhension pleine et entière des mystères du royaume de Dieu? Ceux qui sont autour de moi, ceux qui m'entourent et qui sont là pour m'entendre, pour m'écouter. Alors, ceux qui sont destinataires d'un message expliqué, ceux à qui tout est donné, ce sont ceux qui ont accepté la parole faite chair. Est-ce que ce matin, nous faisons partie de ceux qui sont autour de Christ? Ou bien, même si nous sommes dans ce lieu, nous sommes dehors. Dehors par nos inquiétudes, dehors par nos désirs, nos passions, nos envies. Où est-ce que nous sommes là ce matin autour de lui? Rappelez-vous ce prologue de l'évangile de Jean où il est dit que cette parole a marché au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Est-ce que ce matin, je suis autour de celui qui a été parole vivante, qui est parole vivante pour moi ce matin? Pas autour de Jean-Marc, de Michel, de un tel, pas autour d'une célébration, pas autour d'un culte avec ses traditions. Non, je suis là autour de cette parole qui me rencontre et qui est vivante. Alors, lorsqu'un homme écoute, dit Jésus à ses disciples, la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La notion de l'obligation de comprendre. Ah, encore une obligation de plus. Il nous est demandé de comprendre. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas tous les outils. Oui, mais moi, je ne connais pas le grec et l'hébreu. Oui, mais Seigneur, moi, je n'ai pas fait un collège biblique. Oui, mais moi, je suis trop jeune dans la foi. Il nous est demandé de comprendre. Au commencement de tes supplications, était-il dit à Daniel au chapitre 9, verset 23, une parole fut émise, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. Car tu es un bien-aimé, c'est ce que Dieu transmet comme parole à Daniel. Voilà, tu es un bienheureux, un bien-aimé, alors saisis la parole et comprends, comprends. Il ne s'agit pas simplement d'entendre et d'écouter, mais aussi de faire un travail de compréhension en soi, d'accueillir cette parole. Ah, ça y est, il faut que je me mette au travail. En plus, il faut travailler. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Bonjour. Tu fais un bon voyage? Bonjour. Ah, je vois que tu lis la parole de Dieu. C'est bien. Bonjour. Tu as fait une bonne visite en Israël? Tu retournes dans ton pays? Non, il lui dit une seule chose. Comprends-tu ce que tu lis? Un intello, ce Philippe, c'est pas possible autrement. Encore un de ces hommes qui veut expliquer par A plus B ce qu'il y a dans l'Écriture. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Il l'invita à monter avec lui pour comprendre ce qu'il lisait. C'est le chemin que Dieu veut nous voir aussi accomplir. Il ne suffit pas d'entendre la parole, encore faut-il faire notre part à nous, qui est un travail de compréhension. L'écoute et la compréhension. Peut-être peut-on dire que l'écoute est une disposition et que la compréhension, c'est une action. Ça peut peut-être nous aider à mieux comprendre la dissociation ou le lien entre ces deux éléments. Lorsque l'ange s'adresse à Daniel, il lui demande de saisir la parole et il lui intime l'ordre de comprendre. J'avais une professeure d'allemand qui avait l'art de m'intimer l'ordre de comprendre. Ça m'a complètement bloqué et j'ai cru pendant très longtemps que j'étais absolument inapte et incapable de pouvoir apprendre une langue étrangère. Elle m'a terrorisé parce que son ordre de comprendre était tellement dur, impératif, que finalement ça m'a totalement bloqué. C'est la seule langue, j'ai envie de dire, à laquelle j'ai été confronté et où j'ai fait un blocage total aujourd'hui encore. Puis quand je suis allé au collège biblique à Kolding, j'ai appris le danois. C'est très utile le danois au quotidien en Bretagne. Si, si, je vous assure. Une fois, il y a une patiente qui est arrivée au centre de Kerdudo il y a une quinzaine d'années. Elle était danoise et elle était pasteur luthérienne. Et j'ai signé son dossier, je suis parti en vacances et je suis revenu juste après les vacances et le lundi matin, en arrivant, j'ai fait le tour de l'établissement. J'ai vu une grande dame avec les cheveux gris, comme ça, avec un parlant français, mais avec l'accent typique des Danois quand ils parlent le français. Et là, quand elle s'est tournée vers moi, je l'ai saluée en danois. Je lui ai dit, est-ce que vous avez fait un bon voyage ? Vous êtes arrivée au centre. Soyez la bienvenue. Tout ça en danois. Elle est restée comme ça. Et après, elle m'a dit, vous savez, j'ai cru que l'accueil était tellement bon dans votre établissement que, quelle que soit la nationalité, on nous recevait dans notre propre langue. Je dis, non, ça s'arrête là, moi. Apprendre une langue, c'est pas facile. Et en fait, ça m'a guéri, ce séjour au Danemark, puisque j'ai pu apprendre d'autres choses, parce que je n'étais plus terrorisé. J'ai accepté de comprendre. Et je me suis dit, je suis capable de comprendre. Dieu me donne les outils pour comprendre, découvrir ce qu'il y a dans sa parole pour moi. Si tu écoutes, dit Dieu, attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais dans la parole, il dit, si tu écoutes et si tu fais ta part, si tu comprends ce que je te dis, pas simplement tu reçois une parole et c'est la parole qui toute seule va faire son travail. Il y a quelques profs ici chez nous, dans l'église. Hein ? Oui, j'en vois une dans le fond là-bas. Vous imaginez, et puis il y en a encore ouais, devant, il y a elle aussi. Hein. Vous imaginez un élève qui dit, bah oui, ça fait un an que je vous écoute. Eh bien, il n'y a rien qui se passe. Hein. Vous n'êtes pas une bonne prof. Hein. Ben non, je vous écoute, mais il n'y a rien qui se passe. Ça ne change rien en termes de vie, de contenu. Ah non, vous n'êtes vraiment pas bonne. Ouais. Ça vous ferait réagir. Hein. Et je suis sûr que les profs que vous êtes diraient, oui, et qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as entendu ? Qu'est-ce que tu as travaillé ? Et vous diriez, en conseil de professeur, bah, il était bien là, il écoutait, mais après, il n'a rien fait, ou elle n'a rien fait. Vous savez, il y a des pasteurs qui regardent l'Église, ils disent, oh, qu'est-ce que j'ai pu leur expliquer, leur dire, annoncer la parole ? Puis après, ben, ils ressortent, ils ne font rien de ce que dit la parole, pas ce que dit le pasteur. Si tu écoutes et si tu fais, Voilà ce qui arrivera dans ta vie, ce qui changera. Écouter, ne pas faire l'effort de la compréhension, c'est recevoir la parole de Dieu le long du chemin. Il est dit que les oiseaux viennent et enlèvent cette parole semée. Christ nous dit qu'il s'agit là de l'œuvre de l'adversaire. Si nous, nous ne faisons pas cette démarche de compréhension, je veux comprendre, tu me parles ? Je veux comprendre, je vais recevoir cette parole. Je vais prier avec ça. Je vais prier ta parole. C'est une formule qui nous échappe un petit peu, hein. Je vais prier ta parole pour que, à un moment donné, elle s'ouvre et qu'elle devienne évidente pour moi. Il y a des choses, aujourd'hui encore, après 40 ans de vie chrétienne, des choses que je ne comprends pas encore totalement, mais je continue à travailler cette parole, à dire Seigneur. En plus, le Seigneur nous a donné quelque chose d'exceptionnel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pour que l'Esprit Saint parlant à notre esprit, ce qui est fermé s'ouvre. Que les paroles qui sont difficiles à recevoir, qui peuvent même nous énerver, nous mettre en colère, tout à coup s'ouvrent et deviennent une évidence et changent notre vie, changent notre relation avec lui, changent notre compréhension de l'autre et de moi-même. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce chemin de compréhension ? Dans ce passage, il n'est pas fait allusion à l'intelligence. Ah oui, mais Seigneur, c'est bien facile, lui, il est équipé. J'ai une psychologue qui, en parlant de certaines patientes, dit « Oh, celle-ci, elle est bien cortiquée. » Hein, Corinne, tu vois. Elle est bien cortiquée. Quand j'entends ça, je dis, bon, je comprends ce que ça veut dire. Vous imaginez un pasteur qui disait, en regardant son église, il dit, ah ouais, celle-là, elle est bien cortiquée, elle va comprendre ce que je dis. Ah bah, elle, non. Ah lui, surtout pas. Il ne s'agit pas d'intelligence. Il s'agit d'une ouverture. Parce que si c'était de l'intelligence, ça voudrait dire que seuls ceux qui sont intelligents ont du temps à consacrer à la lecture de la parole de Dieu, à s'alimenter, se nourrir de la parole de Dieu. Ça serait un petit peu comme... Ah tiens, il est où Valentin ? Je me rappelle, au camp des Roy Rangers, un jour, le cuisinier leur a dit qu'il devait se débrouiller pour le repas. Et il leur a donné un paquet de pâtes. Et je me rappelle qu'il y a un groupe, je ne sais plus si c'était le sien ou un autre, je ne vais pas le dénoncer ici, mais qui est revenu au bout de 20 minutes en disant « ça marche pas. » Hein ? C'est pas vous. Il dit « Ah non, c'était surtout pas moi. » Et en fait, vous savez ce qui s'était passé ? Ils avaient pris le paquet de pâtes, ils l'avaient mis dans la casserole, ils avaient mis un peu de beurre, et puis ils avaient chauffé en dessous. Et ça marche pas. Ouais, ouais. Dieu nous a donné tous les outils sans avoir une question d'intelligence ou d'expérience. Là, c'était un manque d'expérience, tout simplement. Tout à coup, moi, j'étais là quand le cuisinier dit « Bah oui, vous n'avez pas pensé à mettre de l'eau ?»« Ah bah non. » Est-ce qu'il en est de même avec la parole de Dieu ? Et que c'est que ceux qui ont l'expérience ou l'intelligence qui peuvent ouvrir la parole et tout à coup s'en nourrir et recevoir des richesses sur les mystères de Dieu. Ce sont ceux, dit Jésus, qui sont au-dedans et pas au-dehors, c'est-à-dire qui sont dans ma présence, et pour lesquels le Saint-Esprit va faire ce travail d'ouverture, quel que soit mon niveau culturel d'intelligence. Un des plus grands, ou un des pasteurs en tout cas, qui a laissé la plus grande trace dans l'Église apostolique, s'appelait Martinus Bière. Il était au Danemark, c'est un agriculteur. Donc il le dit lui-même, si vous avez la curiosité, lisez ce petit livre qui s'appelle « Votre Père sait ».« Votre Père sait » de Martinus Bière. Moi, je l'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré son fils et puis sa famille au Danemark. Et le témoignage qui était fait encore des années après, c'était un homme qui n'avait aucune culture scolaire parce qu'il avait pris le travail à la ferme à la suite de ses parents. Mais alors, il avait une capacité à croire et à recevoir la parole et à laisser le Saint-Esprit l'ouvrir pour que tout à coup des choses qui pour nous étaient de l'ordre de l'impossible deviennent possibles. Là où il passait, même les vaches étaient guéries. C'est ce qu'il nous est dit dans son livre et qui m'avait été rapporté par son fils. Quand il est devenu pasteur et qu'il a pris sa retraite, il est retourné dans sa ferme et il paraît que tous les agriculteurs du coin en ont profité pour dire « Écoute, passe chez moi, j'ai une vache malade. Est-ce que tu peux prier pour elle ?» Ah ouais. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir cette intelligence de la foi pour que la parole que nous recevions devienne vivante? Hier soir, j'ai, avec quelques-uns, été invité à participer au 10e anniversaire de mariage de Fanny et de Denis. Ils ne sont pas là et quelques-uns ne sont pas là. On a dit qu'on les excusait parce que la nuit a été longue. C'est un anniversaire de mariage auquel on m'avait demandé d'intervenir avec des chants, avec une méditation biblique, au milieu d'un public qui, pour moi, n'était pas chrétien, etc. Donc c'est la deuxième fois qu'on me demande cela, et j'y vais fidèlement, et pour, là aussi, apporter ce qu'on attend de moi. Donc j'ai commencé à cette soirée-là, très africaine, on a commencé avec 2 heures de retard, mais nous on était à l'heure, puis il y a la partie africaine de l'assistance qui est arrivée largement après, et on a eu cette soirée-là, on a partagé un moment autour de la parole de Dieu, etc. C'était vraiment, et à un moment donné j'ai fait lever l'assistance pour un temps de bénédiction du coup, pour dire voilà, on va vous bénir pour que ces 10 années, eh bien les 10 prochaines et les prochaines soient des années bénies par Dieu dans votre vie. Puis la soirée s'est déroulée. Et moi, je m'attendais à avoir une soirée, vous savez, très... voilà, il y avait l'écran avec la musique, YouTube, les chansons, etc. Ah, je vais dire, la moitié de la musique qui a été diffusée, des chants, des danses, du karaoké, mais je vous dis de la danse aussi, ce n'était que des chants et des danses chrétiennes. Et je voyais les non-chrétiens qui chantaient. Je disais, c'est étonnant, étonnant. Et j'en ai parlé à Fanny, puis à ses filles. Je dis, mais c'est la première fois que j'assiste à une réunion d'évangélisation comme ça. 10e anniversaire de mariage. Ouais. Est-ce que nous avons une juste compréhension? Est-ce que nous essayons de comprendre ce que Dieu nous dit pour que nous puissions aussi le dire au monde? Je suis ressorti de là, je vous assure. Ils m'ont fait du bien. Ah, ils m'ont fait du bien. Je me suis dit, il y a 20 ans ou 30 ans, au collège biblique, on nous disait, un jour, c'est les Africains qui viendront évangéliser l'Europe. Et vous savez ce qui se passe dans la tête d'un Européen qui entend ça? Il se dit, ouais, mais attends. Ouais. Nous, on est quand même, on a une connaissance de l'histoire de l'Église, on a une connaissance de la parole de Dieu, etc. On a toute cette connaissance-là. Bon, ils vont avoir besoin de faire tout leur chemin pour arriver à ce stade que nous avons, pour pouvoir évangéliser l'Europe. Ça, c'est des pensées du monde. Parce qu'en fait, ils ont une juste compréhension. Ils écoutent et ils cherchent à comprendre Dieu, à comprendre sa parole. Alors que nous, nous analysons, nous contestons, nous réfléchissons. Nous avons une démarche intellectuelle. C'est autre chose que de chercher à comprendre Dieu et sa parole. Un ami africain qui était au collège avec nous est venu un jour en nous disant « Moi, il faut que j'apprenne à jouer de la guitare. » Je dis « Ah bon, pourquoi tu veux ?» Parce que jusqu'à présent, t'as pas vu. Il m'a dit « Mais moi, il faut que je... » J'ai dit « Mais pourquoi ?» Il me dit « Bah, c'est comme ça que chez moi, j'évangélise. » Il me dit « Ah bon ? Mais tu évangélises avec une guitare ?» Il me dit « Oui, mais tu sais pas jouer de guitare ?»« Bah non. » Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est simple, quand j'arrive dans un village, je sors la guitare, puis je gratte. Et puis je chante, et je gratte. Mais tu ne sais pas jouer. C'est pas important ça, je gratte. Là, les gens viennent, j'annonce l'évangile, les gens se convertissent, et quand ils sont convertis, eh bien, je les engage avec Dieu dans les eaux du baptême. Mais quand même, maintenant, ça serait bien que j'apprenne à jouer de la guitare. Est-ce que nous, on serait allés dans ce village en grattant simplement pour dire « j'ai compris l'urgence de la parole de Dieu, du salut, de l'évangile ». Ah, je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. C'est ce que disait un certain saint Anselme, un père de l'Église, ou en tout cas quelqu'un qui vivait au 9e siècle. Et il y avait la même chose qui était dite par... par Augustin. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, et Dieu sait si c'est parfois notre tentation. Je veux essayer de comprendre afin de croire. Alors qu'il s'agit de croire, et quand je crois, comprendre les choses de Dieu. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, ça fait au moins 9 possibilités pour ne pas se comprendre. Mais essayons quand même. Et je crois que c'est cela l'enjeu. Croire et se dire, Seigneur, puisque tu le dis, je veux comprendre tes mystères. Comprendre ce que tu désires, ce que tu attends. Avoir envie de comprendre. Dans notre comportement, nous pouvons faire le choix de ne pas vouloir comprendre, sachant que si la compréhension s'impose, aïe, 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 on ne pourra plus dire « je ne savais pas, j'ignorais, je ne pouvais pas changer puisque j'ignorais ». Comprendre, c'est ouvrir la porte au changement. Et c'est ce que Jésus veut en apportant sa parole dans notre vie. Est-ce que j'ai envie de changer ? Surtout pas ! Quand je me suis marié, j'ai découvert qu'une femme vivant à mes côtés, c'était un facteur de changement. Et ça, on m'avait pas dit que c'était dans le pack. Non, non, c'est pas une option. C'est dans le pack. Et il y a eu plein de choses que j'ai dû changer. Bon, il y en a qui ont résisté longtemps et qui résistent encore. Mais il y a eu plein de choses qui ont changé. Parce que vivre ensemble, c'est accepter de changer pour et avec l'autre. Vivre avec Christ, c'est accepter le changement. En psychologie, on a ce qu'on appelle la roue de Prochaska et Di Clemente, qui est un outil que nous utilisons pour analyser le changement. La première étape pour Prochaska et Di Clemente, c'est ce qu'on appelle l'étape de la pré-contemplation par rapport au changement. La pré-contemplation, c'est ça. Pas besoin de changer, moi. Je suis très bien comme ça. Au contraire, je trouve que ce que je suis, ce que je vis, est parfait. Pourquoi changer ? Ah non, 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 non. Ah non, non. Vous, peut-être. Moi, non. Ça, c'est la pré-contemplation. Et là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont aussi devant le Christ et qui disent « Moi, changer, Seigneur ? » Oh, je vois pas en quoi. J'ai entendu, oui, bien sûr. Ouais, j'ai bien entendu ta parole. Et ça, je te dis, Seigneur, pour mon voisin, c'est drôlement important. Et toi ? Ah non. Il y a un auteur que j'aime bien, un auteur italien qui s'appelle Giovanni Guareschi. Oh, vous ne le connaissez pas certainement en tant qu'auteur, mais moi, j'ai une affection, une tendresse pour lui parce que c'est l'auteur de Don Camillo. Et il a un livre que j'ai lu, relu et re-relu, c'est « Mon petit monde à moi » de Giovanni Guareschi, je vous le conseille. C'est son petit monde à lui avec sa femme, ses enfants, etc. C'est plein de petits textes qui parlent de la vie familiale, des heurts, des changements, etc. Et dans un des films, c'est le retour de Don Camillo. Don Camillo est exilé dans la montagne, au milieu de la neige, etc., dans une paroisse isolée parce qu'il... Il a été un petit peu dur avec Pépone et puis avec la population de la ville où il travaillait, où il était en service. Et puis, il parle avec Jésus dans les films. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est un très, très bon témoignage. Il a une relation avec Christ. Il lui parle et Dieu lui répond. Jésus lui répond. Et quand il arrive sur sa montagne, il parle à Jésus et Jésus ne lui répond pas. Alors, de nuit, il redescend au village et puis il rentre dans l'église. Il prend la croix, l'énorme crucifié avec le Christ dessus, et le voilà-t-il pas qui demande à Pépone de l'emmener au pied de la montagne, et on le voit monter la montagne avec ce crucifix, pesant, etc. Et puis, Il disait à Dieu, tu sais, moi, je suis pas un idolâtre, je crois pas que c'est ce crucifix, mais j'ai tellement besoin de te parler. Et puis, grand silence, et sous la neige, dans le froid, on le voit monter la montagne, et à un moment donné, s'écrouler. Et puis là, il dit à Dieu, mais Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et là, il entend la voix de Jésus lui parler. Et quand il entend, il dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Je t'ai tellement, tellement parlé. Comment ça se fait que tu me réponds que maintenant? Et la voix du Seigneur lui dit, mais je t'ai parlé, je t'ai parlé. C'est toi qui n'entendais pas. Je suis dans la pré-contemplation, je n'ai pas envie de changer, je n'entends pas la voix de Dieu. Et puis l'étape suivante, c'est quand on rentre dans la contemplation. C'est-à-dire quand on commence à se dire, il y a un problème là, et il y aurait besoin de changement. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas, il y a besoin que ça change. Jésus et sa parole veulent nous conduire au moins à cette étape-là pour qu'en nous parlant, nous puissions dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin que ça change dans ma vie, dans mon attitude, dans mon comportement, dans cette situation. J'ai vraiment besoin que ça change pour que ma foi grandisse, pour que j'atteigne la stature que tu attends de moi, pour que je puisse rentrer dans tes plans, dans tes promesses, pour que je puisse rentrer dans ton service. Il y a besoin que ça change, Seigneur. Est-ce que nous en sommes là? Après, il y a d'autres étapes. C'est le changement, l'action, la mise en action. Mais est-ce qu'on peut déjà être dans cette position de se dire, Seigneur, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Parce que l'ennemi, lui, quand les paroles sont déposées dans une vie qui ne veut pas changer, il vient, comme des oiseaux, prendre les paroles et les enlever et les emmener. L'adversaire attend à ce que nous ne changions pas, à ce que nous ne faisions pas un acte de compréhension de sa parole. La parole et les oiseaux. La parole ne porte pas des fruits, elle n'en portera pas si notre cœur n'en fait pas sa nourriture, si elle ne pénètre pas tout entier dans notre vie. Dieu ne fait pas tomber du ciel des mots, il s'adresse à moi, il me parle. Il me parle et il attend ma réponse. J'ai besoin de ce changement. La tactique de l'adversaire, ce sera au contraire de retirer ce qui pourrait germer, faire, générer une nouvelle vie. La vie est étonnante. J'ai mis une mangeoire le long de ma palissade dans le jardin. Puis j'ai remarqué que quand les oiseaux viennent, moi je pensais qu'ils allaient manger les grains. Oui, ils viennent, mais ils choisissent. J'ai découvert que les oiseaux choisissaient les graines. C'est étonnant. Et ma femme a eu l'heureuse idée de mettre en dessous de la mangeoire une sorte de table en plastique pour planter du basilic, de la coriandre. J'ai du blé qui germe dans ma jardinière. Parce que les petits oiseaux ont enlevé ce qui les dérangeait, ce qu'ils ne voulaient pas, et c'est tombé dans la terre. Et ça a germé. Je suis mais étonné de la force et de la puissance de la vie quand la parole tombe et tombe dans la terre. Devant mon bureau, pareil, j'avais mis, hein, et les oiseaux ont, j'ai une tige avec un épi de blé devant mon bureau. Mes collègues doivent se dire, il n'est pas bien. Il a planté un grain de blé. La puissance de la vie, quand elle tombe dans la bonne terre. Ah. Ce à quoi s'attaque Satan, c'est l'intelligence du cœur. Pas l'intellect. L'intelligence du cœur qui est capable de dire « Je veux comprendre les mystères de Dieu. » Est-ce que nous voulons mettre cette intelligence du cœur en action, en œuvre, ce matin, dans nos vies? Ah. Il y a dans cette parabole des richesses. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça, c'est cette partie que j'avais intitulée « La parole et les sentiments ». Ah, qu'est-ce que c'est beau, les sentiments. Et dans l'Église, on sait jouer sur les sentiments. Il y a des mouvements dans les régions parisiennes, mais je pense qu'on y est touché aussi, autour de la louange, qui est certes de la louange, mais qui repose aussi beaucoup sur les émotions et les ressentis. C'est une formule que j'ai reprise de Michel, qui dit souvent « Méfiez-vous, le senti ment ». J'aime beaucoup cette formule. Il n'y a pas de droit d'auteur. Hein. Ça n'est pas de... Adzaccordian. Samuel Adzaccordian. Le sentiment. Oh, c'est bien d'avoir des émotions et des ressentis, mais si nous recevons les choses uniquement sur la base du ressenti, des émotions et des sentiments, alors on est semblable, comme le dit la parabole, à ceux qui reçoivent des choses, ça pousse vite, c'est éclatant, waouh ! Et puis, dès qu'il y a un coup de soleil, un coup de chaud, ça disparaît. Quand il y a un peu de difficulté dans notre vie, d'épreuves, ou même simplement un temps d'attente. Comment ça se fait que quand le pasteur y prêche, je perçois pas, je ressens pas des choses extraordinaires qui me bouleversent? C'est de la faute du pasteur ou de ceux qui prêchent la parole. Hein. Moi, je veux ressentir à chaque instant. Un peu comme... un couple qui dirait « Nous voulons ressentir la joie des fiancés, y compris quand on aura 5 ans de mariage, 10 ans, 20 ans. » Et l'amour est différent, et le ressenti est différent. Ah oui, donc il faut arrêter, puis recommencer pour ressentir à nouveau. C'est la théorie du monde. Mais quand je vois des chrétiens qui passent d'église en église, etc., parce que là où ils sont, ils vivent quelque chose, puis tout à coup, ça bouillonne plus. Bon, je vais aller ailleurs. Ah, ça bouillonne à nouveau. C'est génial. Ça bouillonne plus. Ah, je vais aller ailleurs. Ah, ça bouillonne, c'est génial. Est-ce que la vie avec Dieu repose sur la puissance de mon ressenti et de mes sentiments? Le peu de terre, c'est le manque d'épaisseur de vie où la parole peut prendre racine. Le risque, c'est d'évaluer la qualité de la révélation à l'aune de nos émotions. Nous sommes très sensibles, et parfois en tant que pentecôtistes, on est très sensibles à ce que nous éprouvons. Hein. Marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en tout point de vue. Porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Croissez dans la connaissance de Dieu. Ah, mais est-ce que je ne peux pas croître uniquement au niveau de mes sentiments, Seigneur? C'est tellement génial. Croissez dans la connaissance de Dieu. Je ne dis pas que les émotions sont inutiles. Ça fait du bien d'éprouver un moment d'émotions extrêmes, importantes. Dimanche dernier, on a eu un moment d'émotion après un match de football. C'est sympa. Mais est-ce que c'est ça, la vie? Il y a un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est celui de Marie Durand, qui a été incarcérée près de 40 ans dans la tour de Constance. Elle est arrivée, elle avait 16 ans. Elle est sortie plus de 30 ans après. Et dans la pierre de la tour de Constance, si vous y allez, vous verrez qu'il y a gravé ce mot « résister ». Pendant 30 ans, cette jeune fille de 16 ans, qui était protestante, a résisté dans sa foi. On lui a proposé d'être libérée si elle reniait sa foi. Résister. Ma foi n'est pas dépendante du climat, des conditions, des circonstances, même parfois difficiles, que non pas Dieu nous inflige, mais que Dieu permet que nous vivions. Et quand je dis cela, je sais que pour certains, ça peut être aujourd'hui un temps d'épreuve. Est-ce que je peux résister dans ma foi? Est-ce qu'il y a suffisamment de terre dans laquelle ma foi s'enracine pour qu'aujourd'hui je puisse, comme Marie Durand, dire « je résiste » et à partir de là, je reste dans la confiance, je reste dans la foi, et je me bats sur cette base-là avec Dieu et avec lui. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a les soucis du monde et la séduction des richesses. Quand on dit soucis, ce n'est pas les soucis et les inquiétudes, mais où on est soucieux, c'est-à-dire que ça prend de la place en nous, où les choses de ce monde viennent prendre la place de ce qui devrait être celle de Christ. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Ne vous inquiétez de rien, dit Paul aux Philippiens, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Voilà. Est-ce qu'il y a, je dirais, les soucis du monde, ce que le monde prend comme place en nous, qui étouffe cette parole que Dieu nous envoie ? Les ronces. Ah, par ce seul mot se trouvent exprimés tous les étouffements possibles, les oppressions, les faux prophètes, les superstitions, les peurs, les étouffements qui viennent de l'extérieur de soi et dans lesquels il est facile de tomber, de se laisser appâter pour être comme tout le monde. Ou bien ça peut être les soucis du monde, la richesse, les plaisirs de la vie, les divertissements illusoires et passagers, la course à l'avoir et au pouvoir. Toutes les idéologies mensongères et trompeuses, tout ce qui nous détourne de l'essentiel et nous rend sourds à la parole de Dieu. Je nous invite vraiment à relire cette parabole de la semence, du semeur. Quand quelqu'un lisait cette parabole, il disait, mais si c'est Jésus qui est le semeur, quel mauvais semeur. Parce qu'il sème partout. Sur la pierre, dans les ronds, sur le bon terrain, il sème partout. Puis un autre a répondu, non, c'est pas un mauvais semeur. C'est un semeur constant et qui veut déposer sa parole sur tous les terrains, même les plus ingrats, jusqu'à ce que germe ce qui peut apporter la vie. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi avec cette attente que ta parole nous rencontre. Tu es la parole incarnée qui a changé l'histoire de l'humanité en faisant tomber les murs de la peur, les murs de la mort et en donnant accès à ceux qui te recevaient. Parole vivante, accès au Père, à cette vie éternelle avec toi. Alors Seigneur, ce matin, donne-nous de regarder ce que nous sommes, d'écouter ta parole et de te dire, je veux comprendre ta parole. Je veux la recevoir et la laisser germer en moi pour qu'elle apporte ta vie. Amen.